La première,
11h midi,
question clé.
Question clé
avec Véronique Thiberghien.
Bonjour à tous et ravi de vous retrouver à l'écoute de cette émission Question Clé. Deux dossiers à vous proposer aujourd'hui, toujours tendance et société bien sûr. Le premier sera consacré à l'échec, à la pauvreté. Éradiquer la pauvreté, c'est un objectif majeur de notre temps et c'est le but essentiel que le réseau wallon de lutte contre la pauvreté poursuit résolument avec la participation des personnes qui vivent dans l'appauvrissement. On parle aujourd'hui de ce réseau mais surtout de l'échec de la société aujourd'hui à gérer cette pauvreté avec Joseph Charlier. Et puis à 11h30, quand l'ennui au travail rend fou. C'est un nouveau domaine d'activité qui est étudié aujourd'hui. C'est comparable au burn-out, sauf que le burn-out, ce serait plutôt le trop-plein de travail par rapport à la déception aussi des motivations. Ici, le burn-out, c'est l'ennui au travail. On en parle avec un spécialiste de la question. Christian Bourion répondra à nos questions pour nous expliquer de quoi il s'agit et pourquoi il s'agit d'un phénomène actuel dont il faut tenir compte.
Question clé, 11h midi sur la première.
La pauvreté explose en Belgique avec une hausse de 11,3% en 6 mois seulement. 2016 sera même plus dramatique encore, en cause cette fois aussi l'afflux massif de candidats réfugiés qui a démarré au cœur de l'été, dont il faudra tenir compte également dans les demandes qui seront faites au CPAS par exemple. À Bruxelles, la hausse a été de plus de 7%, de 8% en Flandre, et c'est la Wallonie qui paye de loin le prix le plus fort de la situation avec une augmentation sur les 6 derniers mois de 15% des minimums. L'explosion est également plus perceptible encore dans les petites entités que dans les grandes villes du pays et le phénomène atteint carrément un degré catastrophique chez les 18-24 ans. Ils sont désormais 32% au total des minimexés et près d'un jeune de moins de 18 ans sur 5 en Belgique vit sous le seuil de pauvreté. C'est ce qui ressort du rapport de l'université d'Anvers. Bref, des chiffres, oui, mais des chiffres qui augmentent. Et ça ne devrait pas baisser si l'on tient en plus compte des prévisions de l'Union européenne. Alors éradiquer la pauvreté, c'est un objectif majeur de notre temps et c'est ce but essentiel que le réseau wallon de lutte contre la pauvreté poursuit résolument avec la participation des personnes vivant l'appauvrissement. Cette participation est indispensable pour briser les inégalités. Joseph Charlier, bonjour.
Bonjour, Véronique Thiberghien.
Bienvenue dans cette émission. On peut rappeler peut-être ce qu'est le réseau wallon de lutte contre la pauvreté dont vous faites partie.
Le réseau wallon de lutte contre la pauvreté est une initiative portée par des militants déjà dans les années 85, de manière volontaire. Ça s'est fait également en Flandre et à Bruxelles. Ouais. Ces initiatives se sont regroupées en 89 dans un réseau belge de lutte contre la pauvreté, lui-même faisant partie d'un réseau européen de lutte contre la pauvreté. En ce qui concerne la Wallonie, c'est peut-être l'esprit latin qui veut ça. Le réseau wallon a mis quelques temps à se structurer et c'est seulement en 2003 qu'il s'est constitué sous la forme d'une ASBL regroupant 21 associations à ce moment-là. Et ces associations se sont données comme but en 2003, comme vous l'avez dit, d'éradiquer la pauvreté, on pourrait peut-être dire aujourd'hui de manière plus juste, plus d'éradiquer modeste. L'appauvrissement, parce que la pauvreté, on la situe souvent à son extrême, à des personnes qui sont dans la rue, auxquelles on fait appel à la charité publique à un moment donné pour faire face en hiver. Bon, alors qu'en réalité, l'appauvrissement touche des catégories importante de la population. Je peux y revenir par la suite si vous voulez. Mais en ce qui concerne donc le réseau wallon, il s'est donné comme tâche d'organiser à la fois les associations qui luttent contre la pauvreté de manière assez moderne, puisqu'il s'agit d'un réseau, il ne s'agit pas d'une fédération, d'une corporation. Un réseau où les personnes en situation de pauvreté ou vivant l'appauvrissement ont dès le départ pris leur place, participant immédiatement au travail qui était proposé par le réseau déjà dès 2003, à savoir des travaux d'état des lieux, d'analyse et de propositions relatives aux situations qu'ils vivaient dans diverses thématiques, comme l'emploi, le logement, la santé. La volonté étant de ne pas simplement faire de l'éducation, de la culture, encore que ce soit évidemment extrêmement important, mais surtout, à partir d'elles qui sont des citoyens, comme tout un chacun, ce que l'on oublie souvent, ce ne sont pas d'abord des bénéficiaires, ce sont d'abord des citoyens. Avec elle, de mettre en parcours cette réflexion et de la proposer, de proposer ses conclusions, intermédiaires, les conclusions ne sont jamais définitives, bien entendu, mais les conclusions, notamment aux interlocuteurs politiques et à la société civile dans son ensemble. Et peut-être un moment marquant dans l'histoire de ce réseau, ça a été la réunion en 2005, en juin 2005, au Parlement wallon, où les personnes et leurs associations ayant fait tout ce travail dont je viens de parler très brièvement, ont pu débattre directement avec les parlementaires wallons. Et je pense que ça a été un moment clé dans l'histoire de ce réseau de wallons de lutte contre la pauvreté, un moment clé à la fois pour les personnes qui avaient participé à ce processus et qui en étaient vraiment partie prenante, mobilisante, et en même temps quelque chose de neuf, parce que je crois qu'au Parlement wallon, c'était une première, cette rencontre. Et cette première a été suivie d'autres rencontres par la suite. Et finalement, pour parler même tout à fait à jour, aujourd'hui et maintenant, si un plan wallon de lutte contre la pauvreté a été adopté par le gouvernement wallon en septembre 2015, si même il ne faut pas récuser la capacité d'initiative du ministre-président et des ministres du gouvernement wallon, bien entendu non, mais je pense que le réseau associatif, et en particulier le réseau wallon, qui était reconnu par décret, c'est un peu la suite de son travail depuis 2014, comme le réseau wallon fédérant, regroupant les associations de lutte contre la pauvreté en Wallonie, eh bien, ça n'est pas rien qu'un plan wallon soit arrivé sur la table et que ce plan wallon ait repris, en quelque sorte, un certain nombre de propositions issues de ce travail du réseau wallon de lutte contre la pauvreté.
Ce réseau wallon est aussi un grand observateur, évidemment, de la situation de l'appauvrissement et de la pauvreté aujourd'hui en Belgique. Il y a Basta, Assez, Échec à la pauvreté. C'est le livre que vous venez de publier aux éditions Couleur Livre dans la collection Détournement de fonds, avec une préface de Christine Mailly. Vous parliez des SDF il y a quelques instants. C'est la partie visible de l'iceberg, celle à laquelle nous sommes tous confrontés. Mais il y a évidemment toutes ces situations aujourd'hui, et vous faites bien de parler d'appauvrissement, même si ce terme pourrait paraître parfois plus politiquement correct que de parler de pauvre. Mais l'appauvrissement, c'est cette partie, cette zone grise aujourd'hui qui ne cesse de s'étendre et qui touche des populations à tous les niveaux. On y revient juste après. Olivier Terwagne.
Jusqu'à midi, Véronique Thiberghien. Question clé.
Question clé.
Sur la première.
Avec Joseph Charlier du Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, cet ouvrage « Ya basta, assez, échec à la pauvreté » paru aux éditions Couleur Livre. Échec à la pauvreté, j'ai presque envie de dire échec de la société par rapport à la pauvreté. Je parlais d'échec tout à l'heure, c'est pas l'échec des associations, c'est bien l'échec aujourd'hui devant lequel on est confronté quand on voit les chiffres et l'augmentation du nombre de personnes en situation de pauvreté, mais aussi cette expansion de cette zone grise qu'est la pauvrissement, des personnes qui ne sont pas encore tout à fait reconnues dans leur statut, mais dont on sait que la situation se dégrade malgré tout, et pour qui, eh bien, la seule issue pour le moment, ça risque d'être une situation de pauvreté réellement vécue. Cette zone grise d'appauvrissement qui s'étend, personnellement, moi, elle me fait quand même un peu peur, parce qu'elle touche véritablement toutes les couches de la population aujourd'hui.
J'avais dit que je ne donnerais pas de chiffres, mais je vais en donner un. Au niveau européen, 25% de la population se situe dans cette situation. Un quart de la population européenne. Donc le problème n'est pas spécifiquement wallon. Il est beaucoup plus que cela. Il est européen. Oui. Et en Europe, ça touche l'ensemble des sociétés. Ça touche certains pays plus que d'autres. On l'a vu. Le plus dramatique a été avec la Grèce l'an dernier. On a vu le résultat des politiques austéritaires. Parce que je pense qu'effectivement, des parties importantes de la population se trouvent mises en difficulté, que ce soit des travailleurs d'usines ou des employés qui vivent des restructurations, que ce soit des travailleurs ou des travailleuses principalement, parce que ce sont surtout les femmes qui sont concernées par le travail à temps partiel, que ce soit les jeunes, vous y avez fait allusion vous-même tout à l'heure, qui sont parmi les plus impactés par le fait, alors que même s'ils ont fait des études, eh bien, la difficulté est là de trouver un job, quoi. Que ce soit des agriculteurs menacés par la crise du lait, comme on l'a connu il y a certains temps, que ce soit même des fonctionnaires qui croyaient que le service public était quelque chose qui allait durer définitivement toute leur vie. On est donc entré dans une zone de turbulence, mais qui ne date pas d'aujourd'hui. Elle date peut-être, elle est pour prendre un moment charnière de la crise des années 70, de la fameuse crise du pétrole qui a mis fin à ce qu'on appelait les 30 glorieuses et qui a fait que tout au long de la période de 74 à 2015, ça nous fait 40 ans, c'est beaucoup de temps. Pendant ce temps, il y a eu cette crise qui n'en a pas fini, mais il y a eu aussi des modifications profondes de la société, de nouveaux défis, les technologies nouvelles, numériques qui sont arrivées et qui ont fait en sorte que certains emplois sont devenus obsolètes. Donc en réalité, on a vu une métamorphose du capitalisme. Il faut appeler un chat pendant toute cette période. On n'est plus dans le capitalisme industriel du 19e et peut-être encore de la première moitié du 20e siècle. On est dans un capitalisme hyper spéculatif qui demande deux chiffres de taux de profit. Et donc, cela crée des distorsions terribles parce que on parle de la pauvreté. On parle de l'appauvrissement, on devrait aussi parler de l'inégalité, parce que l'inégalité, c'est très curieux quand même de voir, quand on lit l'ouvrage de Thomas Piketty, que les inégalités de capital et de revenus sont revenues de manière plus importante encore qu'à la fin du 19e siècle. Est-ce donc là une société de progrès? Et donc,
On parle de l'époque d'Oliver Twist, hein, pour donner un peu aussi voilà. Une idée. Hein,
oui. Mais alors, Oliver Twist, ça nous fait allusion dans nos mémoires littéraires à la pauvreté mise en lettres par Charles Dickens. Je crois que la pauvreté de masse était présente au 19e siècle. Elle a reculé sous les efforts du mouvement ouvrier, principalement, qu'il soit social-démocrate, démocrate chrétien ou communiste. Mm-hmm. Je pense que ça a eu un énorme résultat pour sortir les masses de la misère. Il est un fait que dans une période plus récente, ce qui s'est passé après la Deuxième Guerre mondiale avec ce qu'on a appelé l'État-providence, l'établissement de la sécurité sociale et de tout ce qui s'ensuit, a permis à une part croissante de la population de ne plus être dans cette pauvreté de masse. Même les travailleurs ont pu acheter leur beefsteak, leur frigidaire et leur bagnole. Mais tout ça n'a été en quelque sorte qu'un miroir aux alouettes. Parce que je pense que le monde du travail et ceux qui sont à la périphérie du monde du travail, qui en sont rejetés, comme je l'ai dit un instant, par des restructurations ou par l'obsolescence. Quel mot, hein?
Oui.
On l'utilise pour les machines, on peut l'utiliser pour les humains. Mm-hmm. C'est incroyable que... Et c'est en ça que le yabasta est justifié. C'est un scandale, un véritable scandale, je l'affirme deux fois, que des sociétés modernes, contemporaines, qui ont pu autrefois aller sur la Lune, qui sont capables de révolutions technologiques immenses. Comment est-il possible qu'avec cette capacité intellectuelle, créatrice, ces richesses que nous avons et que les populations détiennent, parce que je voudrais insister là-dessus, les richesses ne sont pas simplement l'apanage du capital, elles sont l'apanage des personnes. Mmh. Vous et moi, nous y collaborons. Vous et moi, nous pouvons tomber à un moment donné, je sais par quel mystère, mais ça peut nous arriver à tomber nous-mêmes dans l'appauvrissement et la pauvreté. Mmh. Et donc, que de richesses gaspillées dans nos sociétés. Et donc, cela pose la question. En fait, le réseau wallon de lutte contre la pauvreté n'est pas une organisation caritative, elle n'est pas dans la compassion sociale, elle est plutôt dans l'optique de se dire, mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est nécessaire? Est-ce qu'il est nécessaire de mettre des revendications sur la table pour améliorer aujourd'hui et maintenant? Oui, certainement. Et par exemple, je reviens sur ce plan wallon de lutte contre la pauvreté, il a entendu un certain nombre de propositions, de recommandations du réseau, et il les met en œuvre. Mais est-ce que ça peut suffire? Je ne pense pas. En réalité, il faudrait, si on veut changer les choses, un plan stratégique sociétal au niveau wallon, au niveau fédéral, au niveau européen. Et nous n'avons pas de plan stratégique, prospectif, veillant, visant la diminution des inégalités, visant, parce que je reviens à l'idée d'un grand sociologue malheureusement décédé qui est Robert Castel, et Robert Castel disait fort bien que si vous n'avez pas de bonnes conditions de travail, de bonnes conditions de vie, ce qu'on appelle les droits sociaux, comment pouvez-vous exercer votre citoyenneté? Et si je ne puis pas exercer ma citoyenneté, la société, elle perd beaucoup. Si beaucoup de gens ne peuvent pas l'exercer, elle perd son sens. Et je crois que c'est au fond, dans la deuxième partie de cet ouvrage, où le projet du réseau est développé, il y a une notion centrale, qui est la question de la démocratie. Elle est centrale, parce que, si on en revient aux projets qui ont dirigé nos sociétés depuis 100 ans ou encore plus, on a le capitalisme et la société de marché. On a eu le communisme et une certaine dictature totalitaire, alors que c'était un grand rêve auquel d'ailleurs moi-même j'ai cru. Donc voilà, alors, nous sommes à Kouya. Alors on s'est replongé dans l'idéologie du développement soutenable. Mais cela suffit-il? Cela est nécessaire. Bien sûr, il faut prendre en compte les défis climatiques qui vont faire en sorte que aussi les personnes qui vivent dans des pays qui sont davantage, ou dans des régions davantage soumises à ces aléas, c'est elles qui vont souffrir le plus, bien entendu. Mais vraiment...
Mais sans croire que nous-mêmes nous serons exemptés de ce type de souffrance.
Nous ne le serons pas.
Nous ne le serons pas. Joseph Charlie, je vous propose de revenir dans un instant sur aussi cette deuxième partie. La première partie de cet ouvrage, Yabasta, assez échec à la pauvreté, avec cette préface de Christine Maillet, plutôt consacrée à une forme d'historique, c'est comment on en est arrivé là aujourd'hui. La deuxième partie, c'est ce qu'on fait demain. Et l'acteur central, principal, c'est ce citoyen qu'on oublie, justement, qui est atteint d'appauvrissement et de pauvreté, qu'il faut remettre au centre de cette activité qui nous permettra éventuellement de sortir de cette situation de pauvreté, faire de ce citoyen un acteur de sa propre vie aussi et en tenir compte. Je vous propose d'y revenir juste après ceci.
11h midi sur la première. Question clé. Question clé avec Véronique Thiberghien.
Pouvoir prendre en main la problématique de la pauvreté dans sa globalité et pas uniquement dans sa localité, c'est l'un des défis majeurs pour faire échec à la pauvreté. L'autre défi, vous en avez parlé, c'est celui de la démocratie également. Il y en a un autre que je trouve très intéressant également, c'était la participation des personnes pauvres et appauvries dans évidemment leur la résolution de cette problématique et puis aussi évidemment Le processus d'appauvrissement, voyons-le aussi comme une richesse et mettons du poids sur ce mot de richesse car ça reste des citoyens et des acteurs de la société que ces personnes en situation de pauvreté. Revenons sur le fait qu'il faut en faire effectivement des acteurs en plus même que de les remettre dans leur statut de citoyen qu'ils n'ont jamais quitté, rappelons-le. Joseph Charlier, ça c'est un point important.
C'est un point extrêmement important, mais je pense qu'en réalité... Faut-il en faire des acteurs? Je pense qu'ils sont des acteurs. Simplement, un réseau comme le nôtre, mais aussi les mouvements d'éducation permanente, mais aussi l'école, mais aussi les syndicats, mais aussi les politiques, doivent prendre en compte le fait que les populations précarisées, appauvries, pauvres, vivant à la misère, contribuent, contrairement à ce qui est répandu, à la richesse de la société. Parce que la société offre des manques absolus dans un certain nombre de domaines. Et quand les personnes se retrouvant dans une situation même de survie, ou même moins loin que ça, allez, une femme qui est là avec ses gosses, situation monoparentale, qui a un travail précaire,
et qui parvient à faire face dans ces conditions, un agriculteur perclus de dettes, qui parvient en solidarité avec d'autres à redresser la tête, des travailleurs qui se mettent en coopération dans de l'économie sociale, des gens qui vivent l'habitat permanent et qui réussissent à s'entraider sur le lieu de celui-ci. Bon, qu'est-ce donc que tout cela ? C'est un apport d'une richesse à la société. Ces personnes qui participent aussi au travail militant, au travers d'associations, peu ou prou, mais peu importe, à leur façon, donc à la fois donc dans la famille, dans le milieu associatif, dans le milieu syndical, dans 36 situations, les personnes amènent quelque chose. Et donc, elles sont des acteurs. C'est parce que nous avons une définition de la richesse qui est uniquement cantonnée à la valeur financière. Or, une société ne se définit pas, je pense, par sa qualité première, par la richesse financière, parce qu'on est habitué à mesurer tout au niveau du PIB, hein, mais elle se mesure peut-être par la qualité de ses relations humaines, par la qualité de la culture qu'elle sait produire, par la qualité de l'ouverture qu'elle sait faire au monde. Et c'est peut-être dans les personnes qui vivent des situations difficiles que l'on va peut-être trouver la qualité d'accueil, la qualité d'ouverture qui manque de trop, par vraiment trop, à nos sociétés. Tout à l'heure, quand j'écoutais le journal, on faisait allusion à la question des réfugiés. Eh bien, est-ce dans les quartiers les plus huppés, sans critiquer le fait que des gens puissent vivre dans une certaine, un certain luxe, bon, tant mieux pour eux, mais tout de même, est-ce là que l'on va trouver la plus grande qualité d'ouverture à la plus grande solidarité quand on n'a pas vécu ça soi-même, sauf par un effort intellectuel assez important. Mais quand on n'a pas vécu ces difficultés, eh bien, je crois que c'est un peu difficile. Et donc, si nos responsables politiques, nos responsables économiques, nos responsables syndicaux, qui sont les nôtres, bon, et qui font bien leur métier, mais s'ils prenaient en compte cette capacité énorme que ces populations pauvres, appauvries, ont d'apporter. D'ailleurs, quand on voit le travail qu'on fait avec le réseau, au cours des groupes de travail, des assemblées, des manifestations, des mobilisations de toutes sortes, des discours qu'ils tiennent, des propositions qu'ils font, on voit, nous, concrètement, comment, effectivement, cette capacité est là.
Oui.
Mais il faut en tenir compte, il faut la prendre en main, il faut la susciter. J'ai eu l'occasion d'intervenir récemment au Parlement wallon qui s'interrogeait sur la qualité de la démocratie en Wallonie et de dire cela. Bon, c'est que si nous voulons que la société marche, nous devons nous appuyer sur les populations, en particulier sur les populations travailleuses, en particulier sur ceux qui n'ont pas de job. Croire que c'est uniquement le financier, l'économique, c'est croire à quelque chose qui a raté. Croissance, économie, emploi, ça a raté.
N'exemptons pas quand même les populations les plus riches de tout esprit de solidarité.
Sûrement pas. Non,
évidemment.
Sûrement pas.
Joseph Charlier, Réseau Wallon de lutte contre la pauvreté, Yabasta, assez, échec à la pauvreté, c'est paru aux éditions Couleur Livre et je conseille à nos auditeurs, de s'y plonger afin de poursuivre le propos de notre invité. Dans quelques instants, nous vous parlerons d'un autre phénomène émergent aussi. Vous allez en entendre parler dans les prochaines années. Vous avez compris ce qu'est le burn-out. On vous explique ce qu'est le bore-out, l'ennui au travail.